On se sent vraiment enfermé dans l'anxiété, on a honte. On sait pas décrire aux gens, t'as une fausse maladie, tu fais des caprices. On peut se dire des choses comme ça et en fait, non, c'est une vraie condition et on peut être rétabli.
Vous écoutez La Perche, le podcast de la Maison Perchée.
Ici, on discute sans tabou de l'impact des troubles psy sur le quotidien et on partage des solutions concrètes pour mieux vivre avec.
Bienvenue dans ce nouvel épisode.
Aujourd'hui, on est avec Sabine et Rizlen pour parler de troubles anxieux. Est-ce que d'abord, vous pourriez vous présenter en quelques mots et nous dire quand est-ce que le terme de trouble anxieux a fait l'apparition dans votre vie ?
Je veux bien commencer, donc je m'appelle Sabine, j'ai 39 ans. J'ai été diagnostiquée bipolaire à 35 ans. Mais en fait, les troubles anxieux ont fait leur apparition assez tôt, enfin de façon très violente, avec les états dépressifs forts. C'était vraiment les manifestations les plus importantes, on va dire, de la maladie. Et donc, à l'adolescence, j'avais vraiment des périodes, c'était vraiment par période, par crise, des périodes où je pouvais faire 6 attaques de panique par jour. Ça pouvait me prendre n'importe où, au lycée, dans les magasins, voilà. Et d'un seul coup, j'avais un état panique total. Et il y avait aussi des périodes qui se manifestaient plus par des phobies sociales. Et ça, c'est apparu assez tôt, bien avant le diagnostic de la maladie, à l'adolescence. Et je savais pas quoi en faire. C'est, voilà, et ça partait, ça revenait et ça partait, par vagues.
On va reparler des différents symptômes, justement, dans un instant. Et toi, Rizlen ?
Moi, c'est Rizlen, j'ai 35 ans. J'ai été diagnostiquée en 2021 avec un trouble anxieux généralisé. J'avais consulté un psychiatre pour m'aider. J'avais beaucoup d'attaques de panique aussi, j'étais dans un espèce d'état anxieux constant, j'avais des symptômes physiques, des maux de tête, des vertiges, des choses un peu classiques quoi. Et il m'a dit oh, mais non, vous inquiétez pas, c'est juste un trouble anxieux généralisé, ça se soigne très bien. J'ai fait quoi, c'est quoi ça? Et moi je me suis dit oh, non, ça y est. En réfléchissant, ça fait depuis l'adolescence aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes d'anxiété, de crises d'angoisse, mais j'avais pas les mots.
C'est intéressant qu'il y ait ce décalage pour toutes les deux entre le moment où ça a commencé et le moment où un mot a été mis dessus.
Peut-être qu'on va essayer de définir un peu plus précisément ce qu'est le trouble anxieux, parce que on entend souvent parler d'anxiété dans la vie de tous les jours, mais là on parle de quelque chose de trouble anxieux généralisé. Comment est-ce que vous pourriez le définir en quelques mots ?
Alors moi, dans les phases, parce que c'est vraiment des phases, hein, quand je suis dans des phases de troubles anxieux généralisés, vraiment, je suis complètement paralysée, en fait, par l'anxiété. En fait, tout me fait peur. Je reçois une lettre administrative, c'est la panique. Je dois aller faire mes courses, ça me fait aussi peur. Je n'arrive pas à affronter le monde extérieur, en fait. J'ai des angoisses démesurées par rapport à l'avenir. J'ai l'impression que je pourrais jamais retravailler, que je pourrais jamais ressortir de la maison. Et c'est très, très, très dur de rompre, en fait, ces ruminations. Et ça s'accompagne chez moi, de pics avec des troubles paniques vraiment quand je suis à l'extérieur, où là, vraiment, je suis submergée et ça peut aller jusqu'au malaise, en fait.
Mmh. Donc, c'est paralysant.
Complètement. Je suis paralysée, en fait. Je ne peux plus agir. C'est vraiment... le corps ne répond plus, l'esprit ne répond plus. Je suis figée, en fait, par l'anxiété, l'angoisse, voilà.
Ok. Rizlen, si ça a l'air de résonner, je te vois hocher la tête.
Le mot paralysant est très adéquat, effectivement, c'est pareil. Donc, c'est vrai qu'il y a des phases où, quand j'ai des phases d'anxiété très fortes, et aussi avant que j'apprenne à gérer tout ça, il y avait des moments où j'étais effectivement paralysée. Ou par exemple, je me rappelle, j'avais des réunions en télétravail, et je me suis dit, mais attends, j'ai réunion dans 20 minutes, et je vais mourir, mais comment je vais faire ? Alors, je me mettais sous le canapé, et je sais pas, comment vraiment décrire, c'est comme des sensations de mort imminente, qu'on va jamais y arriver. Moi, j'avais beaucoup de problèmes d'hypocondrie, donc j'allais beaucoup aux urgences. Donc c'est marrant parce qu'une fois, j'ai un pote, il est tombé à son resto, enfin il bossait en restauration. Et il s'est fêlé un truc et il m'a dit « Ouais, Rizlen, c'est quoi les meilleures urgences de Paris ?» J'ai dit « Ah ben, Goncourt, évidemment Saint-Louis, c'est rapide, ils sont sympas, voilà. » Donc du coup, ben, toujours avoir
un pote anxieux pour le benchmark des urgences.
Ouais, voilà, ça c'est le côté un peu marrant du truc, parce que ça fait quand même longtemps. Mais c'est vrai que j'ai vécu des moments où même j'allais voir des médecins parce que je me disais mais c'est pas possible, je suis en train de faire une attaque ou je suis en train de devenir folle. Non, c'était juste de l'anxiété, bon, juste. Donc voilà, l'anxiété c'est difficile je pense peut-être à comprendre ou à distinguer du stress qu'on peut vivre au quotidien, du type, en ce moment la vie c'est stressant, hein, je veux dire la vie est chère. L'éco-anxiété, machin.
Le monde va pas.
Ouais, c'est pas tous les jours cool, voilà. Mais l'anxiété, c'est vraiment un truc qui te bloque chez toi. Tu peux être bloqué. Tu peux faire des ruminations à 2h du mat sur des trucs. Ah oui, j'ai une petite douleur là-bas, mais c'est sûr. C'est une phlébite, c'est évident. Tu cherches sur Doctissimo, enfin genre c'est.
Et oui, beaucoup voilà, de Doctissimo.
Et le meilleur ami ou le meilleur ennemi des anxieux.
Le trouble anxieux.
Et tu vas aux urgences, elle te dit ah vous avez un eczéma et tu pleures parce que tu dis mais genre, c'est
je ne vais pas mourir.
Et puis tu dis ouais je prends du temps à un médecin qui s'occupe de vrais trucs, enfin voilà.
Et vous avez toutes les deux parlé de crise de panique.
Oui,
tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez le définir?
Oui, avant, je voudrais rebondir sur cette histoire d'hypocondrie. Parce qu'en fait, moi aussi, il y a cette peur de mourir qui s'auto-alimente, en fait. Parce que comme on a cette sensation d'étouffer, enfin, je sais que moi, ça me donne l'impression d'étouffer ou alors que mon cœur va s'arrêter ou palpite, parce qu'en fait, je pense qu'il doit y avoir des réponses au stress et à la peur qui sont démultipliées dans le cerveau. Et on a quand même des symptômes physiques. Et ça fait qu'on va encore plus psychoter sur ces symptômes physiques. Donc on va se dire, oh là là, je suis en train de faire une crise cardiaque ou voilà. Et effectivement, ça va alimenter encore plus l'angoisse. Et donc, on peut partir très, très loin. Et effectivement, après, quand on redescend, on dit, mais là, quand même, ouais, je suis partie assez loin. Et par rapport à l'hypocondrie, moi, c'est vrai que j'en ai aussi fait beaucoup. Enfin, du coup, j'étais dans cette histoire d'anxiété autour de ma santé, parce qu'en plus, j'ai une autre maladie qui n'était pas diagnostiquée non plus, qui est physique pour le coup. Ça fait que j'avais tout un lot de symptômes et que je ne comprenais pas ce que j'avais. Et donc, comme en plus, j'avais le trouble bipolaire, je ne savais pas, j'avais 10 000 symptômes, des symptômes physiques, des symptômes psychiques, l'anxiété. Et tout ça se mélangeait et je me disais, mais je vais mourir en fait. Je vais finir paralysée. Enfin, je ne comprenais pas ce qu'il y avait. Et comme aucun médecin... ils me disaient tous c'est dans la tête, c'est dans la tête, prenez du magnésium. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme soin, ou de la vitamine D en fait. Pendant des années, on ne me prenait pas au sérieux. Et du coup, ça alimentait encore plus à chaque crise, à chaque nouveau symptôme, mes anxiétés. Donc ça ne faisait que monter. Et donc pour les troubles paniques, effectivement, dans certains moments, ça montait. Alors parfois, c'était à cause de rumination, justement. Donc là, ça peut monter comme ça en puissance. On a l'impression qu'on peut plus respirer, qu'on suffoque. Mais moi, ça m'arrivait surtout beaucoup, en fait, dans les phases... en fin de phase maniaque, début de phase down, en fait, j'ai remarqué. Ou en phase down, quand j'essayais de me confronter au monde extérieur. Et c'était trop dur, en fait. Et là, je pouvais faire des attaques de panique carabinées. Et donc souvent, je faisais des crises de ce qu'on appelle spasmophilie. Enfin, c'est ce que me disaient les médecins à l'époque. C'est-à-dire que je me mettais à hyperventiler. Et j'arrivais pas à m'arrêter. J'hyperventilais jusqu'au malaise. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. Jusqu'après, j'expliquerai qu'on me donne des méthodes pour calmer les crises, en fait.
On va parler justement, effectivement, de ça, des solutions.
Moi, je me rappelle je me suis installée à Paris en 2006. Et je me rappelle de ma première crise d'angoisse. C'était sur un banc à Porte de Versailles. Je crois qu'il y avait un espèce de salon et il y avait trop de gens et... J'étais nouvelle dans la ville, j'étais confrontée à beaucoup d'agressivité et de méchanceté. Moi, j'étais un peu genre gentille et tout. Depuis, je suis devenue méchante.
Une vraie parisienne.
Voilà, c'est ça.
Contaminée.
Blasée et méchante.
C'est ça. Et j'étais allongée sur un banc et genre j'étais en train de mourir. Et ouais, personne n'a rien fait. Et c'est marrant parce que cette année, je suis retournée à Porte de Versailles pour un salon, salon de la création, un truc de couture, un truc du genre... Et ça me faisait vraiment quelque chose d'y retourner, parce que Porte de Versailles, c'est pas un endroit où on va tout le temps. Et du coup, j'ai fait une crise de larmes dans le métro, enfin, j'étais pas bien et tout. Et là, il y a une femme qui m'a tapé sur l'épaule Et elle m'a dit ça va et tout, elle m'a donné un mouchoir. En fait, elle m'a fait des petites blagues et elle m'a dit ah ouais, vous avez cousu votre sac, machin. Et je me suis dit ah ok, en fait, entre-temps, il y a des choses qui ont changé quand même. C'est déjà quelqu'un de tendre la main, c'est hyper cool et c'est hyper important. Et d'arriver à sortir de sa tête justement par certaines techniques, ça fonctionne aussi. Mais moi, c'est des crises de panique, c'est surtout des larmes, les mains qui se contractent, la sensation de mourir, ou plutôt de... Je dirais que un peu le sol se dérobe, genre de basculer, de perdre un peu la tête et tout. Voilà.
Donc c'est palpitations, larmes, mains qui tremblent ou...
Ouais, des espèces de... Je dirais des... Moi, j'ai un peu les mains qui se contractent.
Mains qui se contractent.
Je me contracte, en fait.
Mmh. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, avant d'arriver ici.
Ah oui, oui, bah, je vous ai vu hyper sérieux sur vos ordi. J'étais ah, salut. Au revoir.
Non, heureusement que t'es venu.
T'as suggéré la crise... qui n'est pas devenue une crise.
Non, ça va.
C'était
quand
des
même.
Petits symptômes.
Oui, c'est normal le stress.
C'est normal.
D'avoir le trac.
Oui, encore. Ouais. On a tous du stress. Et justement, sur cette question de, bah, de généralisation, tout le monde dit oui, je suis stressé, je suis trop angoissé.
Ah, ça.
Tout le monde a le droit d'être angoissé. Mais qu'est-ce que ça vous fait, vous, de faire face à cette surutilisation du terme angoisse? Un peu comme avec la bipolarité qu'on retrouve dans n'importe comment. Schizophrénie aussi, on en a parlé. Voilà. Vous, l'anxiété, c'est encore plus le cas, je pense.
Ça vous énerve ou vous en fichez?
Ah bah, je pense qu'il y a tout un spectre d'anxiété. Donc.
Alors, pour le coup, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Parce qu'en fait, les gens, quand ils disent ça, souvent, ils expriment un ressenti, mais ils n'y mettent pas les clichés qu'il y a derrière schizophrénie ou bipolaire, je trouve. Et ça me dérange beaucoup plus quand j'entends des gens dire « Ah bah lui, il est bipolaire parce qu'il change d'avis comme de chemise. Enfin, » ça me dérange beaucoup plus. Alors que souvent, quand ils disent « Ah, je suis très anxieux et tout », bon, même s'ils ne sont pas à notre degré d'anxiété...
c'est bon, une réalité, quand même.
Voilà, ils ont une contrariété, en fait. Et je l'entends comme l'expression d'une émotion, même si je sais que ces personnes-là ne souffrent pas de troubles anxieux. Mais je vois qu'ils sont dans l'expression d'un ressenti et ils ne disent pas ça méchamment. Donc en fait, moi personnellement, quand les gens parlent d'anxiété, d'angoisse, même si je sais qu'ils n'ont pas expérimenté forcément mon degré de troubles anxieux,
une crise d'angoisse.
Voilà, de crise d'angoisse, etc. Je n'ai pas de problème avec ça. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, moi, quand je suis pas en crise, je ne suis pas quelqu'un d'anxieuse. C'est vraiment par phase, par crise, avec la bipolarité.
Ça n'a pas l'air, du coup.
Non.
Quand t'es arrivée,
non, c'est ça. En fait, je suis assez détendue. Et c'est vraiment lié à ma maladie, en fait. Mmh.
Je pense que, ouais, effectivement, les gens ont le droit de se sentir stressés ou anxieux. Anxieux, c'est pas moi qui vais leur dire, je suis pas la gardienne du temple de l'anxiété.
Et l'époque est anxiogène.
Voilà, c'est
la propriétaire du terme.
Non, je veux dire, tout le monde a le droit de se sentir mal et j'écoute. Quand c'est des amis, je leur donne des petits conseils aussi de choses qui m'ont pu m'aider parce que je pense qu'il y a plein d'exercices qui peuvent aussi aider des personnes qui n'ont pas de troubles anxieux en soi, mais qui ont, par exemple, des passages. Anxieux ou quoi que ce soit pour mieux gérer. Donc ça, je trouve pas ça gênant. Et en vrai, même les personnes qui vont dire « Ah, mais pourquoi tu souffres comme ça ?» Généralement, le terme de souffrance n'est pas employé, mais « Oh, pourquoi est-ce que tu te sens comme ça, mal et tout ? Regarde, t'as tout pour toi, t'es super belle. » Ok.
Ouais, il n'y a aucun rapport.
Ouais, « Regarde, la vie est belle, c'est cool. » genre, il y a des petits chiens, oui, c'est vrai.
Tu vois pas le rapport.
J'adore les petits chiens. J'adore les petits chiens. Je pense qu'ils pensent pas à mal. Et ça m'énervait, mais ça m'énerve plus. Je dis, ah oui, ça va, t'as raison. Je vais pas rentrer dans des débats. Enfin,
en fait, c'est bienveillant. Si c'est dit avec bienveillance, c'est vrai que ça fait toute la différence par rapport à des gens qui utilisent bipolaire ou schizophrène.
Exactement.
Comme avec derrière des préjugés négatifs.
C'est l'intention qui compte.
Voilà, par contre, il y a effectivement parfois de la maladresse dans le sens où les gens ne comprennent pas et effectivement vont faire un peu la morale. Mais pourquoi tu vis les choses comme ça, effectivement. Mais c'est quand eux expriment pour eux-mêmes le fait qu'ils soient stressés, anxieux, angoissés, effectivement, moi, c'est pareil. C'est pas quelque chose qui me dérange. Ce qui me dérange plus, c'est effectivement quand les personnes manquent d'empathie en fait par rapport à ce qu'on vit et qu'ils minimisent le trouble anxieux et qu'ils comprennent pas ce côté paralysant parce qu'ils comparent à leur propre expérience de l'angoisse, du stress, enfin de ce que eux appellent angoisse ou stress et qui n'a rien à voir en fait, qui n'est pas de l'ordre de la pathologie. Et donc là, effectivement, on peut se retrouver face à un blocage dans la communication.
Oui, comme d'ailleurs, on l'a vu pour d'autres troubles dans des épisodes précédents, où c'est vrai qu'il y a ce sujet qui revient de personnes extérieures qui ne connaissent pas forcément bien le sujet et qui disent « bouge-toi,
prends du magnésium ».
Une question de génération aussi, ouais. Je pense qu'on parlait quand même pas de ça il y a quelques années. Enfin, en tout cas, beaucoup moins. Les faits de troubles anxieux généralisés, même les crises d'angoisse, le terme de crise d'angoisse, moi je l'ai entendu, mais je pense pas l'avoir tout le temps entendu. Tu vois, je pense que c'est quelque chose dont on parle plus maintenant, mais quelques générations auparavant, ça n'existait pas.
Oui, c'était très tabou, hein, les troubles psychiques.
En général.
D'une manière générale.
Ouais.
La question des troubles anxieux est souvent associée à celle de phobie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est une phobie, vous, donc Sabine, tu parlais de phobie sociale, vous en avez peut-être d'autres, comment ça fonctionne, c'est quoi votre rapport à cette notion de phobie ?
Alors, personnellement, c'est vrai que j'ai expérimenté plusieurs fois lors de crises des épisodes de phobie sociale où je n'ai envie de voir personne, recevoir un texto, c'est la fin du monde. Rien que l'idée de devoir répondre. Alors, les groupes WhatsApp, c'est l'enfer.
Déjà que c'est l'enfer pour la plupart des gens.
Mais quand on veut pas voir les gens du tout.
Voilà, et puis j'ai pas du tout envie de voir des gens et d'être sollicité, en fait ça m'angoisse. Et ce qui en plus avec la bipolarité est terrible, c'est que j'avais des phases donc up, des phases d'excitation. Et donc là au contraire, je sortais énormément, je faisais plein de rencontres, je faisais plein de projets. Et
donc
après,
plein
quand j'étais.
WhatsApp.
Voilà, plein de groupes. Je créais des groupes WhatsApp moi-même.
Ils fleurissaient sur ton téléphone.
Voilà. Wow. Quand ça redescend. Et qu'on se retrouve en phobie sociale, on ouais. doit. Il y a tous ces gens en fait à gérer tous les projets qu'on a lancés et c'est l'angoisse
et
totale
ouais.
et qu'on ne peut plus rien faire. Et c'est pour ça que je disais que souvent j'avais remarqué que mes phobies et mes angoisses étaient les pires au moment où j'avais cette redescente en fait de la phase up et que je tombais en phase down parce que je devais faire face à tout ce que j'avais moi-même créé en période d'excitation. Ouais. Et d'un seul coup, je m'en sentais complètement incapable, parce qu'en dépression, on sort pas de son lit, etc. Et j'avais plein de sollicitations et des gens qui s'énervent parfois, qui ne comprennent pas ou qui font des reproches, mais pourquoi tu réponds plus et pourquoi tu te désengages. Et donc, en fait, la chose s'est produite une fois, deux fois, trois fois, et à la fin, ça devient phobique. Parce qu'en fait, on se dit, mais je suis nulle, parce que j'avais pas de diagnostic, donc je me disais, je suis nulle, je me lance dans 10 000 projets, j'abandonne. Je me sentais hyper mal. Et c'est vrai que, voilà,
je vois ce que tu veux dire.
J'avais vraiment ce truc de me sentir agressée par le monde extérieur, d'avoir vraiment envie de me recroqueviller sur moi-même et de ne plus supporter personne. Et puis même, en fait, dans ces phases-là, en plus, j'ai un côté d'hypersensorialité qui fait que le monde extérieur m'agresse. Être dans le métro, les bruits, dans les magasins, le moindre cri, le chien qui aboie, tout agresse. Et donc, pareil, c'est propice au fait de vouloir rester calfeutré chez soi, de ne pas vouloir sortir. Déjà que c'est un effort surhumain de sortir quand on est en phase down, et en plus d'être confronté, on va dire, à la violence de notre monde, entre guillemets, aux décibels, à l'agressivité des gens, et puis aussi, comme je disais, à tout ce que j'avais moi-même créé, c'était l'enfer quoi. Donc la seule solution, c'était alors j'ai jamais été hospitalisée pour le coup, mais c'était de m'enfermer chez moi pendant des mois.
Ah oui, ça peut durer longtemps ces phases.
Ah ça peut durer sans traitement, ça peut durer très longtemps. Et c'est vrai que pendant mon année d'agrégation, j'ai préparé l'agrégation de lettres modernes. Donc pareil, au début j'étais un peu up, je travaillais énormément, j'essayais de suivre le rythme. Et à un moment donné, j'ai senti que j'y arrivais plus et j'ai paniqué. Et en fait à ce moment-là, j'ai sombré dans une phase, parce qu'en plus, il y avait de la pression quand même des professeurs, etc. Et puis du groupe de travail dans lequel j'étais, qui attendait que je rende des fiches, etc. Et en fait, cette pression-là m'a fait complètement vriller. Et je suis partie en phase down. Et là, je suis restée, je crois, 4 ou 5 mois enfermée chez moi. Et même aller faire des courses, c'était quasiment mission impossible.
C'est comme une hospitalisation, mais toute seule, à domicile. Et donc, tu devais faire tes courses. Et je pense que tu touches un peu le cœur même de la difficulté des bipolaires, quoi. Et les gens ont du mal à comprendre ça. Parce
ils comprennent pas.
T'as eu plein de projets, t'as tout arrêté. Tu vois, chier.
Qu'est-ce
qui
s'est passé?
Tu vois, t'as qu'à pas faire.
Tu t'organises mal.
T'es quelle idée? Mais en fait, ce sentiment de culpabilité,
C'est horrible.
Et ce qui est hyper dur à faire comprendre, je trouve.
Oui. Parce qu'on culpabilise quand on sait pas qu'on est malade, ouais. On culpabilise.
Puis c'est dur à comprendre, tout simplement, parce que c'est bizarre, quoi.
Oui. D'être, et puis soi-même, on a l'impression qu'on est fou, qu'on est dysfonctionnel, voilà. Mmh. Et c'est très très dur pour la confiance en soi. Et comme, encore une fois, ça alimente l'angoisse, l'anxiété. Et en plus, dans ces périodes-là, parfois je me disais, mais je vais jamais réussir à retravailler, je vais échouer dans mes projets, etc. Mmh. Et c'est vrai que
j'ai eu
des arrêts de travail d'un an et demi quand même. D'un an et demi parfois. Donc c'est vrai que ça peut durer très longtemps.
Ouais. Ce qu'on disait ici dans une discussion à la cafette, au café, qu'on avait honte de ne pas avoir eu honte, de ne plus avoir eu honte, quoi. Tu vois, ce moment de honte d'avoir laissé jaillir un peu toute ta vie. Mmh. Et là, tu te retrouves avec tous tes groupes WhatsApp qui sonnent, mais dans le vide. Et ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est une vraie définition de ce que c'est, en fait, la bipolarité.
Oui,
en tout cas de la souffrance que ça.
C'est pour ça que l'anxiété, pour moi, est complètement corrélée à ma maladie, en fait.
Justement, il y a la question des causes. Là, en l'occurrence, c'est lié à un autre trouble psy, donc la bipolarité. De façon générale, c'est quoi les causes? Je ne sais pas si c'est des choses sur lesquelles vous avez lu ou au moins vous avez votre propre expérience. Vous direz que c'est lié à quoi?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses liées au stress post-traumatique. En gros, moi, j'ai grandi à Alger et tout pendant des années qui étaient... Enfin, ce qu'on appelle la décennie noire, c'était des années de terrorisme.
Des années 90.
De violence, de... Bon, ce qu'on appelle maintenant de guerre civile. Mais même si j'ai pas été concernée directement, je pense que c'est... Ça peut être un terreau quand même pour un enfant qui n'est pas évident parce que c'est... Ouais, tout est très dangereux, entre guillemets. Même si, voilà, pour en avoir discuté avec beaucoup d'autres Algériens et Algériennes, comme on a tous et toutes vécu ça, entre guillemets, on se dit toujours, ben, si on n'a pas été touché directement dans notre famille, s'il n'y a pas eu de décès, tout simplement, ou quoi que ce soit, oh ben, ça va, on n'a rien eu et tout. Mais en vrai, je pense que ça, peut-être que ça a joué. Enfin, du moins, en thérapie, il paraît que oui. Je sais pas. Et après, je pense que il y a peut-être un facteur génétique. Je me suis posé la question. Si on a des anxieuses aussi dans sa famille...
C'est ton cas?
Oui, carrément. Je sais pas, je pense que c'est biopsychosocial, je crois que c'est comme
oui,
ça qu'on
ça.
Dit. Enfin, il y a un peu de tout, mais... Je pense qu'il y a pas mal de causes entre le vécu, peut-être des choses dans la famille aussi. Moi, le Covid, ça, tout le confinement et tout, ça m'a plongé dans beaucoup de souvenirs des années 90, je dirais. Entendre des trucs genre le couvre-feu. Enfin, nous, il y avait vraiment un couvre-feu à l'époque, quoi. Il y avait vraiment une alarme et tout. Je me dis peut-être que ça trigger des trucs. Parce que c'est vrai que juste avant l'annonce du confinement, j'arrivais plus à respirer. Je respirais comme ça, donc je me disais, j'ai le Covid. Et du coup, j'avais une pompe, genre d'asthme ou un truc à la con. Ouais, voilà, je prenais 10 bouffées, ça marchait pas. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de, peut-être d'avoir un Covid hyper grave. Et j'ai une amie médecin qui m'a dit, ah mais tu sais, sinon l'anxiété, ça peut faire comme des crises d'asthme. Je fais, l'anxiété, c'est quoi ça et tout. Non, n'importe quoi, pas du tout. Et après c'est parti, mais comme c'est venu, et je me dis, il y a peut-être eu des triggers comme ça, où j'ai l'impression que le Covid aussi, il y a pas mal de personnes, soit qui ont été diagnostiquées, soit elles avaient déjà des états, parce que moi j'ai toujours eu des problèmes d'anxiété, en vrai j'ai toujours eu des phobies, j'ai peur de l'eau profonde, j'avais le vertige, maintenant ça va mieux, enfin, j'ai peur de plein de trucs, et en même temps j'ai peur de rien. C'est assez paradoxal. J'ai une amie qui a dit ça de moi. Et c'est assez vrai. Et donc, je me dis, il y a peut-être plein de gens aussi. Le fait de rester comme ça enfermé plusieurs mois. Même si on a fait semblant, je sais pas, moi j'ai fait du yoga, j'ai fait du pain, enfin.
Oui, comme tout le monde, mais.
T'as fait semblant sur Instagram, mais.
Ouais, non, mais j'ai tout contrôlé surtout. Et je trouve que l'anxiété, je peux pas parler de la bipolarité, mais je trouve que pour l'anxiété, c'est beaucoup une maladie du contrôle. On n'arrive pas à lâcher prise. moi j'arrive pas à lâcher prise. J'ai des... Une fois j'ai mis un créneau dans mon agenda genre lâcher prise. Et j'étais là, ok, je sais pas comment on fait. Je crois que je me suis assise en ligne sur
déjà, mon téléphone. À partir du moment où tu l'as mis dans ton agenda, c'est un peu raté.
Déjà, tu as admiré les rangements de Victoria qui sont devant.
Mais c'est ça, c'est génial.
C'est tellement bien rangé, j'adore quand c'est rangé.
J'adore quand c'est étiqueté.
Ouais. Donc, déjà,
c'est
on voit
très
le...
étiqueté chez moi. Oui, non, mais après, voilà, j'ai du mal à conduire. Pour moi, c'est conduire même un vélo. Il faut regarder partout.
Ça, c'est compliqué à Paris. Hein,
c'est super dur. Il y a des choses comme ça où, en fait, c'est un peu... C'est compliqué au quotidien. Mais je pense que, du moins, s'exposer, c'est une bonne idée. Il faut pas... L'évitement, c'est la pire des choses. Mmh. Tant qu'on peut s'exposer petit à petit... ça.
Venir ici, déjà.
Ouais, c'est ça, j'ai poussé la porte.
C'est ça, parce que dans les répercussions, dans les conséquences que ça peut avoir, ça peut être l'évitement de certaines choses. Sabine, qu'est-ce que tu dirais parmi les conséquences, les répercussions que ça a sur ta vie?
Alors déjà, par rapport à la question précédente, j'ai aussi un peu cette analyse, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une part génétique. Parce que j'ai une grand-mère qui faisait beaucoup d'attaques de panique, qui avait vécu des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que, bon, il y a pas mal de recherches qui disent qu'effectivement, il y a une épigénétique, les traumatismes peuvent s'inscrire dans le code génétique. Donc déjà, ça, c'est vrai que c'est une piste, je pense. De l'autre côté, bon, j'avais un arrière-grand-père paternel, pour le coup, qui était bipolaire. Donc là, la bipolarité vient de là. Mais je me dis, le trouble anxieux, il y avait peut-être aussi cette faille du côté maternel. Et après, moi-même, j'ai quelques traumatismes liés à des violences sexuelles. Quand j'étais enfant, j'étais agressée par des gamins de mon quartier, en fait, à plusieurs reprises les mêmes. Donc voilà, et c'est vrai que je pense qu'après... Puis après, il y a eu d'autres agressions dans la rue, pareil, ce genre de choses. Et je pense qu'on a un état d'hypervigilance, on a cet état de stress. On a une réponse au stress qui est modifiée, je pense, à partir de là. Et je sais que j'en parle souvent avec des amis qui ont été victimes de viols, d'inceste, de violences sexuelles. Et c'est quelque chose qu'on a en commun. Ils sont pas bipolaires, mais ils ont des troubles anxieux. Donc je pense que vraiment, le stress post-traumatique, pour moi, c'est un facteur qui favorise les états anxieux, les troubles paniques. Je pense vraiment que... je sais pas du coup si ma bipolarité... C'est ce qui m'a fait aussi une longue errance médicale. C'est que pendant longtemps, je croyais que tous ces troubles psychiques venaient uniquement de mes traumas. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'il y avait quelque chose de cyclique qui allait au-delà, en fait, de cette question traumatique. Et donc, ça a créé encore plus d'errance médicale dans mon cas. Voilà. Donc je pense que vraiment, cette question traumatique, elle est aussi au cœur de cette problématique.
Des troubles anxieux.
Oui.
Donc à la fois des traumatismes liés à un vécu personnel et des traumatismes, entre guillemets, transmis par l'épigénétique.
Oui, peut-être transgénérationnel. Je me dis, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Et effectivement, dans le quotidien, moi, effectivement, j'ai raté mon année d'agrég, clairement. Peut-être que je ne l'aurais pas eu quoi qu'il arrive, mais là, c'était plié, quoi. Vu que j'ai passé 4 mois enfermée chez moi, j'ai redoublé mon année, ma première année en tant que prof. Pareil, à un moment, je n'arrivais plus à faire face aux élèves. Pareil, j'étais paralysée devant mes élèves. Je ne voulais plus aller au travail. J'avais peur d'aller au travail. Et pareil, comme c'est par phase, après, j'étais remotivée, j'y retournais et ça se passait très bien et ça repartait comme ça. Et donc, j'ai eu, comme je disais, plusieurs arrêts maladie. Et parfois certains liés à des problèmes d'anxiété. Et j'ai dû changer de métier. Parce qu'en fait, à la fin, j'avais vraiment un trouble anxieux par rapport à mon métier. Je n'arrivais plus du tout à faire face.
Donc une phobie scolaire...
J'ai fait une phobie scolaire donc à 35 ans. Je ne voulais plus aller à l'école. Et donc effectivement, j'étais paralysée. Je ne pouvais plus mettre un pied dans mon établissement. C'était impossible. Parce qu'il y avait le regard des autres, parce qu'il y avait les remarques des parents d'élèves sur mes absences, les regards des professeurs. des commentaires jugeants, en fait, voilà. Et puis, moi-même, je ne supportais plus le travail à la maison, de ne pas y arriver, d'être trop fatiguée, et d'avoir cette impression d'échec, de toujours repartir, d'être motivée, de faire des projets avec mes élèves et de ne pas arriver à les tenir. Et en fait, je me sentais en complet sentiment d'échec. Et ça a développé vraiment une phobie autour de ce métier, en fait.
Et t'as trouvé une autre voie qui te correspondait mieux à ce moment-là ?
Alors, j'en suis passée par un terrible épisode parce que, en fait, j'ai pris des antidépresseurs sans savoir que j'étais bipolaire. Et j'ai fait un très grave virage maniaque qui a réduit ma vie en champ de ruines. C'est-à-dire que j'ai demandé le divorce, j'ai vendu ma maison, j'ai arrêté de travailler. Et en fait, je me suis retrouvée à 35 ans avec un enfant, hein, j'ai un enfant, après 10 ans de mariage, enfin 10 ans de vie commune, je me suis retrouvée sans rien en fait, parce que ma crise maniaque avait tout balayé. Et là, ma psychiatre a vu que j'étais en état maniaque à mon retour des vacances scolaires, et là elle m'a dit « mais en fait vous n'êtes pas dépressive, vous êtes bipolaire ». Parce que là, vous êtes complètement surexcité, vous avez fait n'importe quoi. Et quand j'ai voulu revenir vers mon mari, en fait, il m'a dit non, là, il était démoli, en fait, parce que je venais de faire quand même 6 mois d'état maniaque, j'étais déchaînée, quoi. Et donc, voilà. Et donc, là, j'ai fait 1 an et demi d'état dépressif après cette... un an d'état dépressif après cette phase-là, parce qu'en fait, on m'a donné le diagnostic de bipolarité. Et franchement, ma vie, c'était tellement un champ de ruines, en fait, que là, je pensais que je retravaillerais jamais de ma vie. En plus, j'avais des troubles cognitifs, des pertes de mémoire et tout. Et là, l'anxiété, elle était costaud, parce qu'en fait... Je voyais vraiment pas où j'allais. Et donc, j'ai finalement obtenu un reclassement administratif dans l'éducation nationale. Et au départ, on m'a dit, vous allez essayer de faire du secrétariat, voilà. Et puis finalement, le traitement a marché. Et j'ai fait du secrétariat, je me suis formée. Puis finalement, on m'a dit, vous pourriez peut-être essayer d'être cadre parce que vous êtes compétente. Et donc, j'ai été formée au métier de cadre adjointe gestionnaire. Et donc là, aujourd'hui, je suis adjointe gestionnaire dans un établissement depuis cette année, après ma formation. Donc j'ai rebondi.
Bravo déjà, bravo. Ouais,
bravo, franchement bravo.
Incroyable.
Bravo.
Oui.
Je reviens de très très loin.
Ouais. C'est super dur et en même temps beau à entendre.
Honnêtement, pour tous ceux qui se disent « je me relèverai jamais », j'ai vécu ce sentiment, honnêtement. Et surtout qu'après une crise maniaque aussi corsée que celle que j'ai faite, j'avais vraiment des troubles cognitifs au point que je n'arrivais plus à lire. En tant que prof de français, hein, c'est quand même quelque chose. Et en fait, je n'arrivais plus à lire. J'avais l'impression d'être Dory dans Nemo, où je tournais en rond dans ma maison. J'avais pas de mémoire à court terme. Enfin, j'avais des troubles cognitifs extrêmement forts. Et en fait, c'était hyper angoissant parce que je voyais que je ne pouvais plus rien faire, en fait. J'avais plus de mémoire, plus de capacité de concentration.
Ça s'auto-renforce.
C'était très, très angoissant. Très, très, très angoissant.
Et maintenant, t'arrives à lire ?
Oui. Ouais. Par contre, je n'ai jamais récupéré pour l'instant. Enfin, voilà, je faisais du piano, je lisais parfois 3 livres dans le week-end. J'ai jamais récupéré cette capacité de concentration, jamais. Mmh. Honnêtement, ça, je vais pas mentir. À ce jour, je ne suis pas capable de faire ce que je faisais avant la crise. Mais ça revient, clairement.
Ok.
Ça donne de l'espoir.
Bah, surtout de voir quelqu'un d'aussi souriant et tout.
Ah oui, et que c'était pas si longtemps.
Oui, c'est ça.
Non, c'était à 5 ans.
C'est fou. C'est les troubles cognitifs, ça me fait penser à... Je crois que c'était en 2016, j'étais en agence en fait. Donc j'étais chef de projet digital, un truc du genre. D'un côté, c'était une super expérience parce qu'on était comme une petite famille et tout, mais d'un autre, on travaillait vraiment beaucoup, vraiment très tard. Et un jour, je me rappelle, c'était un petit bureau. En fait, il y avait une mezzanine et il y avait un rez-de-chaussée, quoi. Donc en 2016, je devais avoir, je sais pas, fin de vingtaine. Il devait être 19h30, j'étais devant mon ordi et je sais pas comment je me suis sentie, je me rappelle pas très bien, mais je suis tombée de ma chaise. Je me suis mise par terre, j'ai hurlé et j'ai commencé à pleurer. J'ai fait une espèce de crise d'angoisse / burn. C'était un burn-out en fait. J'en pouvais plus. Et en fait, en plus, j'étais dans une phase très stressante parce que je faisais mes démarches de visa de travail et tout. Enfin, Voilà. Certains et certaines connaîtront la situation à l'écoute. Et je pense que c'était trop. Et le lendemain, je suis revenue au travail. Et mon patron il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et j'étais là, je sais pas. Et j'étais genre, ouais. Je répondais avec un temps de réaction de 5 secondes. Enfin, c'était vraiment, je me suis dit, ok, ça y est, c'est fini, je suis devenue bête.
Cerveau grillé.
Mmh. Ouais, j'avais le cerveau grillé, en fait, par le burn-out. Enfin, comme quoi le cerveau peut réagir selon les circonstances. Et récemment, en fait, j'en ai discuté avec mon copain qui m'a dit, mais si ça se trouve, c'est eux, c'est de leur faute. C'est eux qui t'ont aussi déclenché ce trouble anxieux. Enfin, lui, c'est aussi... de la colère, parce que ben, quand t'aimes les gens, tu veux pas que le travail pousse les gens dans cet état. Mais je pense qu'il y a plein d'éléments déclencheurs. J'y ai repensé récemment, en fait. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Bah tiens, il y a ça, peut-être sa pierre à l'édifice. Et puis tu dois retourner au bureau.
Et tu nous disais tout à l'heure, hors antenne, ou avant qu'on démarre l'enregistrement, mm-hmm. que maintenant t'étais freelance.
Oui.
Ça,
oui,
ça
oui.
fait partie un peu des aménagements, des solutions en quelque sorte que tu as mises en place pour mieux vivre avec ce trouble anxieux.
Oui, complètement, parce qu'en fait, je trouve que dans mon métier en tout cas, où j'ai aussi la chance qu'il y ait du travail et tout.
Tu fais quoi du coup ?
Je suis designer web, UX, UI. Je trouve qu'en fait, en prestation, donc en freelance, on peut vraiment définir les termes du contrat et on peut, tout est assez clair. Et je trouve qu'en CDI, enfin, c'est vraiment mon expérience, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'implicites. On doit faire des choses, mais on sait pas trop quoi. Il y a beaucoup de politique. Il y a des choses où moi, je suis pas très à l'aise avec l'implicite. J'aime bien quand c'est direct, quand c'est plus horizontal, on va dire. Et du coup, ça m'a, je pense, aidé. Ça paraît bizarre parce que le CDI, c'est une sécurité et tout, et c'est une chance, hein, je dis pas. Mais moi, dans ma situation, j'ai pu faire ça. Et pour d'autres travailleurs, travailleuses de la tech, un peu du numérique, développeurs et tout, il y en a plein qui se sont mis pour... Il y en a plein qui sont allés à la campagne, tout simplement. Ils se sont mis à leur compte.
Ça offre une plus grande souplesse.
Changer de cadre de vie, c'est ça.
Ouais, quand tu t'organises vraiment.
Ouais, quand on peut le faire, c'est vrai que c'est cool. J'ai pu réduire mon temps, enfin, je suis en 80%.
Et puis, t'as pas à gérer toutes les relations para-professionnelles, on va dire, de sociabilité, du travail.
Avec des clients, quand même.
Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'en fait, même quand je suis intégrée à des équipes et tout, tu prends de la distance.
Et voilà.
Et donc, t'arrives aussi à parfois donner des conseils aux gens, où t'es un peu un regard extérieur. Un peu comme au théâtre, parce que c'est un grand théâtre, bien entreprise sûr, c'est un théâtre. Au final. Et toi, t'es un peu le regard extérieur, genre... Alors là, vous faites de la merde. C'est vraiment nul, ce que vous faites. Et personne va rien te dire, parce qu'ils vont te dire, ah ben tiens, j'ai payé un freelance.
Ouais.
Et
t'as moins à gérer la comédie humaine
exactement.
Du quotidien.
Et du coup, c'est ce stress en moins, ce qui est cool.
Mais c'est aussi un luxe quand même, on va pas se mentir.
Complètement, c'est complètement un luxe, mais quand il y a du travail dans la branche, n'hésitez pas. C'est allez-y, voilà. Si vous avez l'occasion, c'est très cool. You're safe.
On se travaille.
Je se crois.
Et au-delà peut-être de ces aménagements de la vie pro, qu'est-ce que vous avez mis en place pour mieux vivre avec ce trouble anxieux en termes de, alors que ce soit thérapie peut-être, on a parlé de médicaments aussi ou d'autres choses.
Bah, moi, j'ai découvert plusieurs méthodes en fait, au fil de ma vie et je me suis constituée une espèce de boîte à outils. Alors maintenant, il y a effectivement les médicaments. Hein, mais même avant, quand je n'avais pas encore le diagnostic, j'avais déjà des outils. Ce qui fait que j'arrivais quand même à mieux vivre. Donc un des premiers outils, c'est quand j'ai fait du théâtre, on nous a fait apprendre à respirer, la respiration ventrale, vraiment la respiration profonde. Et déjà, quand j'avais justement mes attaques de panique, je me concentrais, je respirais avec ces méthodes-là. Et après, c'est l'année où j'étais justement à Grenoble pour passer l'agrégation. Une professeure a vu que j'étais vraiment en détresse, en fait, parce que je venais plus en cours et elle a compris qu'il y avait quelque chose. Et elle m'a orientée vers le service. Il y avait un service de psychologie gratuit pour les étudiants. Et j'y suis allée et là, j'ai fait des cours avec une infirmière. Alors, j'avais un psychothérapeute. Hein, et en plus, ce qui m'a le plus aidée, en fait, c'est les cours avec une infirmière qui nous faisait de la sophrologie. Et on avait des séances de groupe où elle nous a parlé de la rumination, voilà. Et comment justement inverser ces processus de rumination, les identifier déjà. Se dire là, ce n'est pas la réalité. Je suis en train de ruminer. Et à partir de là, de mettre en place des choses, notamment de reconnexion au corps. Elle nous disait, voilà, par exemple, quelque chose de tout bête, vous allez marcher, vous prenez un bain, vous vous reconnectez à votre corps, vous sortez de la rumination, trouvez vos outils pour sortir de la rumination, et avec le groupe, on échangeait, etc. Et après, j'ai découvert un peu plus tardivement le yoga aussi. Donc là, c'est un bon outil, clairement, pour la, voilà, pour, pareil, on respire, on se reconnecte au corps. Et donc, après, de façon plus théorique, j'ai beaucoup lu, hein, sur, une fois que j'ai eu le diagnostic de, même avant le diagnostic de bipolarité, j'étais en recherche, en fait, de comprendre. Et j'ai lu des articles à droite, à gauche. Et il y a un concept, en fait, maintenant que j'utilise, c'est la métacognition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me regarde penser et je dis là non, là t'es en train de partir, là tu fais n'importe quoi, c'est voilà. Là j'identifie en fait le moment où je vrille et le fait de dire attention, là c'est la maladie, là c'est l'anxiété, ce n'est pas toi, c'est de la rumination, et de voilà d'inverser un peu le processus en fait, de reposer les choses et de rationaliser en fait. Et maintenant effectivement bon. Depuis que j'ai le diagnostic de bipolarité, on va pas se mentir, le traitement, là, ça a changé ma vie. Et en plus, comme je continuais à faire des petites crises anxieuses, hein, j'en ai fait quelques-unes, elle m'a rajouté un nouveau médicament. Et quand je fais une crise vraiment, je le prends. Et en fait, en 2 jours, hein, c'est magique, je redescends.
Ok, super complet. je sais pas, Rixlaine, si tu partages certaines choses, si tu veux...
Yoga aussi.
J'en ai fait, je fais du sport. Je suis quelqu'un d'assez sportif, d'assez manuel et tout. Je fais pas mal de choses. Je fais beaucoup, beaucoup trop de choses. Et voilà. Mais sinon, j'avais commencé par faire l'an dernier, non, plutôt en 2021, 2022, quand c'était vraiment au gros de l'anxiété. J'ai fait pas mal d'hypnose, de MDR et tout.
C'est quoi le MDR?
Le MDR, c'est la thérapie de désensibilisation par les mouvements oculaires.
Waouh. Tu l'avais. T'as bien révisé.
Je me suis auto-kiffée, là. Et en gros, c'est une personne qui fait un truc avec ses doigts devant tes yeux. Enfin, il y a des techniques, il y a pas mal de techniques, et c'est pour les stress post-traumatiques. Où je pense que j'avais besoin d'ouvrir les vannes parce que il y avait peut-être beaucoup de choses de bloquées, mais j'ai toujours été réticente à avoir des psys. Je sais pas pourquoi. J'arrivais pas. Je me suis dit, mais je vais aller les voir. Je vais parler de quoi. J'aime mes parents. Ils sont super. J'ai pas envie de les insulter. Enfin, j'avais des clichés. Il y a peut-être des choses un peu culturelles aussi. Je ne sais pas.
Ouais, peut-être aussi. Ouais.
Et
si c'était pas présent dans toi, dans ton entourage,
non,
c'est dur de.
J'avais vu un psy, mais il était un peu ésotérique. Et,
ouais.
Franchement, ouais, j'avais un bon. Et puis j'ai commencé une TCC, donc une thérapie comportementale et cognitive, début 2023. Et non, j'ai toujours cette personne, elle m'a sauvé la vie en fait. J'avais fait une crise d'anxiété, alors elle appelle ça l'anxiété paroxystique, c'est une crise d'anxiété. J'ai fait ça début janvier 2023, rentrant de vacances, ou pendant une semaine. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes durées de temps, mais une semaine c'est long, hein. Où j'avais tout la panoplie de l'anxiété, c'est-à-dire la vision en tunnel, j'avais du mal à traverser la rue, j'avais des maux de tête, j'avais des vertiges, je pleurais 6 fois par jour. Je me suis dit, c'est fini, j'ai commencé à écrire mon testament, je l'ai envoyé à une pote, elle m'a dit, je peux prendre le tapis, je dis jamais. Elle m'a dit, connasse. Ça m'a fait un peu redescendre. Et je suis allée voir le MDR et ça m'a fait redescendre d'un coup de ma crise d'anxiété. C'était trop d'anxiété accumulée. C'était une époque où je prenais des anxiolytiques avec des antihistaminiques, avec des cocktails pour juste ne rien sentir. Ne faites pas ça. Et je pense que ça s'est trop accumulé. Et j'ai vu cette hypnothérapeute et j'ai vu un médecin qui m'a dit « Ouais, mais allez faire une TCC, ça va vous faire du bien. » Et effectivement, et aujourd'hui, j'ai des exercices pour maîtriser l'anxiété. Ou même au quotidien, il y a plusieurs techniques. Et c'est le jour et la nuit, entre il y a un an. Enfin, j'ai repris ma vie.
Ça consiste en quoi, les techniques, en grosso
Alors,
modo en deux
Par
mots.
Exemple, il y a des techniques pour, quand on sent qu'il y a une crise qui monte, par exemple d'angoisse, pour un peu se réancrer dans la réalité, donc via les cinq sens, voir un peu ce qu'il y a autour de soi, entendre et tout, se concentrer sur les sensations. Il y a aussi des exercices pour retracer un peu ce qui a pu déclencher une anxiété, donc écrire ce qu'on a pu ressentir, les pensées automatiques et puis derrière les pensées rationnelles. Et ça, c'est des choses qui calment bien. Il y a des quarts d'heure d'inquiétude, c'est-à-dire tous les jours, on peut prendre 15 minutes pour s'inquiéter.
J'adore.
Et, peut, trop drôle. Mettre,
et ouais. Au bout de 15 minutes,
il faut mettre un minuteur. Et du coup, je remplissais des notes et des notes sur mon téléphone. Donc, il y a plein de techniques comme ça. Et franchement, en un an, c'est le jour et la nuit. Mais tout le monde l'a remarqué autour de moi. Je pense être rétablie. Enfin, il y a des moments d'anxiété où c'est dur et où... ça va être plus dur pour moi que pour les autres, faut pas mentir, je vais avoir besoin de ce temps seul pour aussi me recharger, crier un bon coup ou je ne sais quoi, mais je sais pas, ça va durer un jour ou deux et après ça va aller mieux, donc on peut vraiment se rétablir, c'est possible, on n'est pas enfermé en fait, on se sent vraiment enfermé dans l'anxiété, on a honte, on sait pas décrire aux gens. Moi, je me dis souvent, c'est pas une vraie maladie. T'as même pas une vraie maladie, t'es même pas bipolaire, t'as une fausse maladie, tu fais des caprices. On peut se dire des choses comme ça, et en fait, non. C'est une vraie condition, et on peut être rétabli. Et on sera pas le genre de personne qui se prend pas la tête, mais c'est pas grave, parce qu'on connaît les meilleures urgences de Paris.
C'est un très beau message de...
C'est déjà experte en... Tu sais te prendre la tête.
C'est ça, exactement.
Dans la bonne direction et tout. Genre.
Voilà. Et on prévoit toujours les scénarios B en vacances. On a toujours des bons plans. Voilà, vu qu'on prévoit tout.
Bah, peut-être, toi, Sabine, si t'as un message à adresser à des personnes qui font l'expérience de l'anxiété, ou de façon plus générale d'ailleurs, si t'as un message à adresser au monde sur au cette monde. Expérience du ouais, trouble anxieux.
Mon petit moment Miss France. écoutez, non, je pense vraiment qu'il ne faut pas rester seule en fait, parce que moi, à un moment donné, j'en parlais pas. Voilà, l'adolescence, je restais vraiment avec ça, en fait, j'en parlais très peu. Et je pense que, voilà, la première fois vraiment que j'ai été prise en charge, c'est parce que ce professeur m'a vraiment tendu la main, en fait. Je l'ai jamais remercié, en fait, mais je le remercie aujourd'hui. Et effectivement, à partir du moment où j'ai eu une vraie prise en charge, c'était la première fois de ma vie, j'avais 22 ans, les choses quand même ont commencé à se décanter. Et voilà, il y a des outils, il y a des choses qui existent, il y a aussi des médicaments. Et il faut pas rester seul avec ça en fait. Et puis bon, il peut y avoir un entourage proche qui peut être culpabilisant, mais on peut trouver des professionnels, eux, qui vont savoir nous donner des solutions. Donc je pense qu'il faut vraiment réussir à sortir de la culpabilité aussi et à aller vers des solutions qui existent.
Comme disait notre cher Simon, on n'est pas condamné à souffrir.
On n'est pas condamné à souffrir, c'est ça mon message, on n'est pas condamné à souffrir.
Eh bien merci. Merci.
Mais merci beaucoup à toutes les deux.
Merci à vous pour l'invitation.
C'était super intéressant.
Merci à vous.
C'était La Perche, un podcast écrit et réalisé par Anna Klarsfeld et Sylvain Pinault.
La musique a été composée par Blasé, accompagné de Michael de la Maison Perchée.
On espère que notre conversation vous aura été utile.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast.
Pourquoi pas à nous laisser quelques étoiles.
Et surtout, à en parler autour de vous.
À bientôt pour un nouvel épisode.